La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.
Bienvenue dans cet entretien du jour consacré au patrimoine industriel, témoin d'une séquence révolue dans l'histoire occidentale, marqueur d'une désindustrialisation dont les effets se font encore sentir. Les sites et les monuments du patrimoine industriel qui se donnent à voir de plus en plus nombreux dans les territoires posent de nombreuses questions aux collectivités territoriales. Quel statut la société assigne-t-elle à ces vestiges? Que doit-on conserver? Quelles fonctions pour les bâtiments anciens? Quelles incidences pour les territoires? Ce patrimoine revisité peut-il constituer une familiarité, une culture commune pour le citoyen? Quelles sont les tendances actuelles et le regard que porte le public sur ces initiatives? Pour répondre à toutes ces questions, je me réjouis de recevoir un ami, René-Pierre Cognet, conservateur du musée de la métallurgie ardennaise à Bogny-sur-Meuse. René-Pierre Collinet est un militant du patrimoine industriel depuis les années 70. Il est membre actif de l'APIC, Association pour le patrimoine industriel en Champagne-Ardenne, et du CILAC, Association nationale pour la sauvegarde et la connaissance du patrimoine industriel. C'est un membre du Parlement de la culture de la région Grand Est, un ancien chercheur associé au Centre d'histoire des techniques de l'Université de Paris 1. Il collabore à la revue Patrimoine industriel, entre autres publications, et il est à l'origine de la sauvegarde d'une usine emblématique de la seconde industrialisation à Charleville-Mézières, que je connais bien, du coup, moi, l'usine Clément Bayard, dite la Massérienne. Bonjour René-Pierre, merci tout d'abord d'avoir accepté mon invitation.
Merci, je suis très heureux d'être parmi vous.
Alors René, le patrimoine industriel français est particulièrement riche, donc des usines, des fabriques, des mines, alors particulièrement dans le Grand Est hein, que vous connaissez très bien. Depuis les années 70, singulièrement, les Français ont redécouvert l'extraordinaire diversité de ce patrimoine technique, hein, paysage, bâtiments, machines, outillages, savoir-faire, mais aussi tout le capital humain qui recouvre. Hein, le patrimoine industriel est donc beaucoup plus large que ce qu'on peut penser de prime abord. Quelle définition pourrait-on donner à nos auditeurs du patrimoine industriel?
Ce qui est très intéressant, c'est que dans votre question, vous ne dites pas archéologie industrielle, qui était la première dénomination très restrictive. Et tout de suite, vous utilisez la dénomination qui est beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressante, de patrimoine industriel. C'est-à-dire qu'on va au-delà de l'usine, du lieu de production, du terrain, c'est important, on part du terrain, on part de l'usine, on part du lieu de production, mais il faut aller au-delà, c'est-à-dire même à l'intérieur de l'usine, voir s'il reste des machines, voir comment était organisée la production, s'intéresser aux relations sociales, s'intéresser au-delà de l'usine, puisqu'il pouvait y avoir le château patronal, les cités ouvrières, tout un ensemble qui a une signification très importante et qui nous parle non seulement de l'histoire industrielle, de l'histoire technique, mais de l'histoire sociale.
Alors, c'est donc une conception très très large qui est la vôtre, hein, patrimoine industriel, on l'aura compris. La conception britannique, justement, du patrimoine industriel se limite aux vestiges visibles, hein, à leur reconstitution et à leur description. Elle valorise l'édifice avant tout. Là où l'école française confronte ces vestiges aux documents d'archives, vous en parliez à l'instant, hein, écrits, iconographiques et éventuellement à la mémoire orale. Est-ce à dire que la France, René, qui est le pays du patrimoine, on sait, s'est donné une définition plus large du patrimoine industriel entre histoire contemporaine et médiation culturelle aussi très actuelle?
Oui, alors il faut rappeler quand même que la Grande-Bretagne est le pays de la première révolution industrielle et que c'est un des premiers pays à avoir subi la désindustrialisation, d'où un intérêt précoce pour ce qui était l'héritage industriel. D'ailleurs, ils emploient actuellement l'expression « industrial heritage », qui est proche de la notion de patrimoine industriel. Alors, c'est vrai que les Britanniques ont eu au départ une autre conception que la nôtre, proche, vous l'avez dit, de l'objet industriel, c'est-à-dire l'usine, et aussi avec une autre organisation, c'est-à-dire les Britanniques se sont surtout reposés sur les associations locales, le bénévolat, et pas du tout une organisation par un ministère, comme chez nous, une organisation verticale, beaucoup plus centralisée. Ça, c'est une conception très différente, mais qui est liée aux différentes histoires de nos deux pays. Également en France, oui, il faut rappeler que le patrimoine industriel, enfin l'archéologie industrielle, le patrimoine industriel est né en France et développé en France à partir des années 1960-1970 et surtout les années 1980 avec Maurice Domas, Louis Bergeron, qui étaient des grands universitaires et qui ont installé cette discipline et cette démarche en France. Et leur approche, oui, tout de suite, a été une approche beaucoup plus large. C'était une autre manière de faire l'histoire économique, de faire l'histoire technique, de faire l'histoire industrielle, de faire l'histoire sociale à partir des traces qui étaient laissées sur le terrain.
C'est presque une branche de l'histoire sociale, finalement.
Oui, c'est une branche de l'histoire économique, sociale, technique. C'est un champ disciplinaire particulier et interdisciplinaire, transdisciplinaire, avec des liens avec l'ethnographie, avec l'anthropologie, par exemple.
Alors, René, le rôle des acteurs publics est évidemment important. Évidemment, l'État, hein, qui peut assurer une protection pérenne par le classement au titre des monuments historiques. Mais celui des citoyens, des associations, des entreprises est fondamental. Et vous le savez bien, hein, vous qui militez auprès de beaucoup d'autres pour le patrimoine industriel en vos terres ardennaises. Est-ce que c'est une particularité du patrimoine industriel que de relever finalement d'une logique ascendante, l'État, en le reconnaissant comme un patrimoine à part entière à partir des années 70, ne faisant que reconnaître le fort intérêt du public en la matière?
Oui, tout à fait. C'est parti de la base. C'est parti de la volonté de citoyens qui avaient pris conscience de l'importance de ce patrimoine, parfois par sentimentalisme, par intérêt esthétique, mais aussi ils avaient très vite compris qu'ils parlaient d'une histoire qui est en train, une histoire des hommes et des femmes au travail qui est en train de disparaître. Et les individus, les associations, les chercheurs ont contribué donc à faire prendre conscience de l'importance de ce patrimoine. Car le patrimoine ne se limite pas aux cathédrales, aux châteaux, non, il existe d'autres patrimoines, dont le patrimoine industriel qui est très important. Et c'est cette action-là qui a finalement obligé l'État à bouger et à créer une cellule même au sein du ministère de la Culture et une cellule au sein de l'inventaire.
Alors, est-ce que le patrimoine industriel finalement ne souffre pas encore d'une image qui est un peu difficile? À la fois trop récent, hein, trop matériel, trop prosaïque, pas assez esthétique, et puis sans doute rappelant aussi l'asservissement par le travail et les drames de la désindustrialisation. Comment on peut changer aujourd'hui l'image de ce riche patrimoine, souvent oublié, alors plus méprisé aujourd'hui parce que c'est de moins en moins le cas, mais encore oublié, comment on peut le mettre vraiment en valeur?
On peut dire qu'il y a de belles usines, l'exemple de la Massérienne à Charleville-Mézières, et Noisiel, par exemple, oui. En région parisienne. Alors l'esthétisme, c'est une chose, mais l'esthétisme a des limites. Bien sûr, ce patrimoine, il a créé, même au départ, oui, certains, finalement, voulaient tourner la page et oublier les drames de la désindustrialisation.
C'est ça.
Et passer à autre chose. Et bien sûr, conserver ces traces, finalement, c'était conserver des liens, des contacts avec ce passé douloureux. Bon, celui du travail en particulier. Et des conditions de la classe ouvrière, des femmes et des hommes au travail.
Donc finalement, cette question du patrimoine industriel, c'est une question politique au sens premier du terme, au sens noble du terme.
Ah oui, c'est une question éminemment politique et sociale, ça fait aucun doute, mais également aujourd'hui d'aménagement du territoire, d'identité territoriale, de valorisation des territoires, car ce patrimoine, le patrimoine en tout cas industriel qui est sauvé, sauvegardé, doit trouver un nouvel usage. Et à travers ce nouvel usage, c'est de nouvelles opportunités économiques, mais également c'est transformer l'image du territoire. Et ça, c'est également très important. Et les décideurs publics comme privés, ils sont très sensibles. À condition, dira le spécialiste, que cette transformation n'aboutit pas à nier le passé, à effacer le passé et à perdre le sens premier de ces sites.
Alors justement, René, quelles sont les conditions pour qu'un objet ou un bâtiment relevant du patrimoine industriel soit conservé et valorisé? Que doit-on donner à voir finalement de ce très foisonnant patrimoine industriel?
Il faut qu'il soit remarquable, emblématique. Hein. Alors on a de nombreux exemples en France, hein. Je ne vais pas les citer, mais Noisiel par exemple ou les Wardes, on pourrait en citer d'autres exemples bien conservés. Qu'il y ait une volonté de la société et des pouvoirs publics de le sauvegarder et de le valoriser, c'est les conditions sine qua non pour pouvoir les conserver et les valoriser.
Alors, René, la reconnaissance du patrimoine industriel a suscité de nouvelles solutions pour sa mise en valeur et son interprétation auprès des différents publics. Aujourd'hui, les techniques digitales et la restitution 3D offrent en ce domaine de fructueuses perspectives. Quel regard le spécialiste que vous êtes porte sur ces nouvelles technologies et les possibilités nouvelles de médiation qu'elles portent en germe ? Là, peut-être vous allez nous parler du musée dont vous êtes le conservateur.
Oui, alors notre musée n'en est pas encore là, mais on fait appel quand même aux méthodes modernes. Par exemple, oui, on fait appel beaucoup maintenant au visuel, aux vidéos, aux films pour pouvoir faire découvrir un milieu que les gens, par exemple moi c'est la métallurgie ardennaise, que les gens connaissent très mal. Hein. La plupart des visiteurs n'ont pas beaucoup de notions en ce qui concerne la métallurgie et le travail dans la métallurgie. C'est souvent une découverte. Plus largement, je pense, oui, à l'usage avec la reconstitution en 3D. C'est le cas, par exemple, d'une collègue de l'UTBM, l'Université Technologie de Belfort-Montbéliard, qui travaille dans ce sens avec ses étudiants ingénieurs. Et c'est vrai que c'est assez époustouflant. On revoit fonctionner les machines, on revoit vivre les lieux. Et je pense qu'il faut aller vers cela. Mais ça demande énormément d'investissement de recherche, d'investissement de travail et d'investissement financier.
Alors, vous le disiez, les collectivités locales s'y intéressent aussi, bien sûr. Alors évidemment, pour des questions de sauvegarde hein, de ce patrimoine souvent local, mais aussi pour des considérations touristiques. Hein. Est-ce qu'il y a un tourisme du patrimoine industriel aujourd'hui ?
Oui, il y a un tourisme qui se développe, un intérêt pour l'industrie, pour la technique, pour le travail, qui est indéniable. Hein. Et également, au-delà aussi, la question des relations sociales, ouais. Les relations salariés, patrons, ouvriers, patrons, c'est indéniable. Et redécouvrir des modes anciens de production, des modes anciens de vie. Moi, je le vois au musée de la métallurgie, il y a beaucoup, beaucoup quand même de nostalgie et de gens qui viennent là, plus âgés, avec leurs petits-enfants, pour leur montrer comment ils travaillaient, comment ils ont travaillé, où ils ont travaillé, les différences avec l'époque actuelle.
C'est sans doute aussi une manière de réparer, de panser des plaies qui, dans certaines régions et l'Est de la France est concernée, évidemment, sont encore douloureuses.
Oui, le choc de la désindustrialisation, les effets de la désindustrialisation sont indéniables. Hein. Et oui, c'est un moyen, finalement, de dépasser cela. Et également, à travers le musée, de se souvenir, mais à se souvenir en regardant vers le futur. Voilà. Ouvrir de nouvelles perspectives. C'est aussi un moyen d'évoquer le passé, bien sûr, et le présent, mais d'ouvrir des fenêtres sur le futur.
Alors, René-Pierre Cognier, pour conclure, vous êtes très impliqué dans la valorisation donc, du patrimoine, de votre patrimoine champardonnais, pas seulement du point de vue du musée de la métallurgie, hein, que vous avez contribué à faire rayonner bien au-delà de ses frontières. Pouvez-vous nous parler de la genèse du musée de la métallurgie ? Nos auditeurs est un exemple concret de développement de ce type d'institution culturelle, touristique, historique. Et pourriez-vous nous citer un exemple innovant de médiation de ce patrimoine industriel ?
Alors c'est un cas très intéressant, mais qui n'est pas unique. L'idée du musée est née à la fin des années 1970. À ce moment-là, les Ardennes sont dans une situation très grave. La désindustrialisation, elle est massive. Et il y a un groupe d'ouvriers qui décide de sauver ce qu'ils peuvent sauver de la mémoire de ce passé et de ce travail dans la métallurgie ardennaise. Et finalement, ils me contactent et c'est comme ça qu'on a commencé par faire tout d'abord un petit musée. Puis ce petit musée, finalement, avec l'appui de l'ORCA et de la DRAC, eh bien, est devenu un nouveau musée puisque on a eu des investissements dans le cadre des fonds européens en particulier, mais pas seulement, qui ont permis de construire un nouveau musée qui réponde finalement au désir de présenter la longue histoire de la métallurgie ardennaise, non seulement sous ses formes techniques, hein, mais sociales et humaines.
Bien, René-Pierre, merci beaucoup pour ce témoignage et tous ces apports. C'est vraiment une question à creuser hein, pour ceux qui ne la connaissent pas, puisque là maintenant, de plus en plus, elle devient vraiment un outil de valorisation des territoires. Donc ce patrimoine industriel, de nombreux acteurs culturels dans les territoires vont s'y frotter. Donc merci pour toutes ces précisions. Et moi, je vous dis à très bientôt pour une nouvelle séquence donc sur Fréquence T, la radio des territoriaux autour de la culture et des territoires. À très bientôt.
Au revoir.
La parole est à vous. Les agents nous parlent de leur métier.